écoutez un podcast de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Ce podcast est destiné aux personnes touchées par un cancer du sang. Nous parlerons à des experts de sujets d'intérêt tels que les traitements, les diagnostics et la recherche. Nous entendrons également des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang. Veuillez noter que ce podcast ne doit pas être considéré comme un avis médical.
Bienvenue à ce balado présenté par la Société de leucémie et lymphome du Canada sur donner un sens à sa vie après l'expérience du cancer. Ce balado fait partie d'une série de balados destinés à informer les personnes touchées par un cancer du sang. Je m'appelle Pascale Rousseau et je suis la chef des services à la communauté pour la province de Québec et pour Ottawa. Mais je fais également partie d'une équipe de mission. Notre rôle est de connecter tous les Canadiens touchés par un cancer du sang à des ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilisent. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Véronique Lefrançois. Véronique a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien en février 2017 et est en rémission depuis juillet 2017. Elle a écrit un livre paru en 2019 sur son expérience avec le cancer qui s'intitule « L'âme d'une guerrière ». Véronique, merci beaucoup de prendre le temps de parler un peu de votre expérience avec le cancer du sang.
Ça fait plaisir.
Alors, première question, comment est-ce que cette expérience a changé votre vie?
Ça a changé sur beaucoup de choses. Au niveau de toute la philosophie de vie, comment je vois la vie maintenant, tout ça a changé. Ça a changé aussi au niveau physique. Évidemment, on n'a pas la même énergie, j'ai pas la même énergie que j'avais avant. Moi, j'étais une très, très grande sportive, ceinture noire, karaté, kickboxing, tout ça. Évidemment, aujourd'hui, je fais plus de la marche que ces sports-là parce que j'ai reçu une greffe et la greffe, c'est très difficile sur le corps. Donc, j'ai pas la même capacité, mais je vois pas la même vie, la vie de la même façon qu'avant. Donc, c'est pas mal ça qui a amené comme changement dans ma vie. Puis aussi, toute l'importance de la famille, les enfants, c'est devenu ma priorité maintenant.
Vous la voyez comment, votre vie maintenant?
Beaucoup plus simple. Il n'y a rien de grave. Tu sais, les choses graves, je les ai vécues. Donc, c'est beaucoup plus simple maintenant. Oui, c'est pas mal ça. Mes enfants aiment beaucoup, préfèrent la nouvelle version de Véronique. Beaucoup plus lousse, beaucoup plus permissive, beaucoup moins chialeuse. Les petites choses banales qu'avant, des fois, on peut chialer parce qu'il neige, exemple, là, comme aujourd'hui, beaucoup de neige, ça, puis là, les gens vont chialer. Mais moi, j'essaie de voir le côté positif de chaque chose maintenant, contrairement à avant.
Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même dans toute cette expérience-là?
Aïe, 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 sur moi-même, une grande force, beaucoup de résilience. Je pensais pas que je pouvais être résiliente comme ça, beaucoup de résilience, de courage. Quand on vit des choses comme ça, on se découvre des forces qu'on n'utilise pas au quotidien habituellement, mais quand on n'a pas le choix, ces forces-là, elles ressortent, puis on les a tous. On les a tous en nous, sauf qu'on les utilise pas toujours. Oui, il y a des choses que j'ai découvertes sur moi que j'utilisais pas, mais que je possédais.
Quels outils concrets ou pratiques dans votre quotidien vous ont aidé à établir cette nouvelle normalité-là, donc qui est la vie après le cancer?
Ben moi, j'ai utilisé beaucoup la méditation. C'est sûr que tout le long de la maladie, quand je recevais mes traitements, je méditais pendant que je recevais les traitements. J'essayais d'être toujours positive face à tout ça. Donc, la méditation me permettait, quand j'avais des petites déprimes, de me grounder. Ça a été ma façon à moi. Puis c'est sûr que après le cancer, j'ai couru toutes les conférences spirituelles et j'ai lu beaucoup de livres aussi.
On parle beaucoup des bienfaits de plus en plus de la méditation chez la population en général. Quels sont les bienfaits que vous avez vus là, dans votre expérience avec le cancer, avec la méditation?
La méditation, je fais ça depuis longtemps et ben, ça me calme beaucoup, ça me rassure, ça me ground. On fait le vide, donc quand on médite, on fait le vide. Donc, ça enlève toutes les images négatives qu'on peut avoir par rapport à la maladie et on se recentre sur l'essentiel.
Quels outils vous donneriez à quelqu'un qui, bon, passe par la même chose que vous avez passé, aurait envie de s'initier à la méditation? Est-ce que vous avez des auteurs en particulier? Est-ce que vous avez un livre en particulier ou qui pourrait aider quelqu'un qui voudrait s'initier à la méditation?
C'est ça. Moi, j'ai commencé. J'ai un enseignant, c'est Paul Baudry, qui a une école de méditation à Montréal et qui est maintenant beaucoup en ligne aussi. Donc, j'ai fait beaucoup d'enseignements avec lui sur toute la spiritualité un peu pour nous amener à lâcher un peu notre ego puis à être dans autre chose. Il offre des fins de semaine aussi où il y a des fins de semaine de ressourcement. Mais chacun a sa façon de passer au travers de la maladie. Pour moi, ça a été la méditation. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça sera autre chose. J'ai lu beaucoup de livres aussi du docteur Joseph Murphy qui parlait du miracle du subconscient, du miracle de l'esprit, que vraiment de penser positif a vraiment un impact sur l'esprit et sur le corps. Donc, ça aussi, ça a été une lecture très intéressante.
Et autre que la méditation, est-ce qu'il y a d'autres trucs pratiques au quotidien qui vous ont aidé à dans votre recherche de sens ou à passer au travers de cette expérience-là?
C'est sûr que pour moi, c'était important de revenir en forme. Donc, le yoga, beaucoup de yoga aussi, c'était difficile parce que moi, je marchais plus là, quand je suis tombée malade, j'avais plus aucune capacité physique. Par le yoga, j'ai pu retrouver ma forme physique. Donc, plus ma forme revenait, plus mon esprit revenait, plus tout ça, c'était ensemble. Hein,
Est-ce que par rapport au soutien que vous apportez à votre famille, vous avez parlé de vos enfants, donc de votre famille, est-ce qu'il y a des choses, des gestes, des paroles qu'ils ont fait pour vous soutenir dans votre nouvelle normalité là? Donc, vous êtes quelqu'un de différent, vous l'avez mentionné, en mieux, là, ce que je comprends. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont fait pour pouvoir vous aider là-dedans?
C'est sûr que mes amis avaient beaucoup d'écoute. D'écoute sans jugement, évidemment, parce que moi, je changeais d'idée. Là, je parlais d'une chose d'une façon. Après ça, je changeais d'idée, je parlais d'une autre façon. Donc, mes amis avaient beaucoup d'écoute. Puis ma famille, eux, ils ont plutôt on reprend le quotidien. Tu sais, les enfants, la routine, tout ça. Fait que ça m'a permis de me remettre dedans aussi parce qu'ils n'ont pas été dans le « Oh mon Dieu, fais pitié » ou tu sais, je ne voulais pas me faire prendre en pitié non plus. Donc, ma famille, ça a été vraiment, on se remet, la vie continue, on repart, puis c'est comme ça qu'ils m'ont accompagné en étant eux-mêmes finalement, en étant comme ils sont d'habitude.
Et souvent, ce qu'on entend, c'est que, bon, les gens, quand, après l'expérience du cancer, on retourne vers une nouvelle normalité. Souvent, dans le discours des gens dans l'après-cancer, ils vont nous dire, bien, ma famille s'attendait à ce que je redevienne la personne que j'étais avant, donc que je reprenne où j'avais arrêté, si on veut, ce qui n'est pas le cas. Je suis différente et je vois les choses différemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté?
Oui, définitivement, oui. On ne peut pas revenir comme avant. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je voyage énormément maintenant parce que c'est sûr que tu te dis, ben là, la vie m'a donné une deuxième chance, ben je vais en profiter. Donc, on est un peu étourdissant. En tout cas, dans mon cas, là, je suis un peu étourdissante parce que ce que j'ai envie de faire, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Donc, j'ai plus d'attente. Je n'attends plus rien. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais maintenant. Donc, les voyages s'enlignent un derrière l'autre. C'est un peu étourdissant quand quelqu'un n'a pas vécu ce qu'on a vécu, ils ne sont pas capables de nous suivre, ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi c'est si important de le faire là, maintenant, et de ne pas attendre la retraite ou de ne pas attendre dans 2-3 ans. Parce que nous, on sait que demain matin, ça peut finir. Tout peut s'arrêter demain matin. Donc, pour nous, c'est important de ne pas attendre parce que justement, ça se pourrait qu'il n'y ait pas de demain.
Mais vous n'avez pas senti de pression de votre entourage? C'est plus vous qui êtes comme, allez, on y va au-devant, on avance et il n'y a pas tant de pression de l'entourage.
Non. Okay. Non, pas dans mon cas. Moi, l'entourage ne m'a pas fait de pression. C'est sûr que des fois, ils trouvent que j'ai des amis, des fois qui trouvent que je suis un petit peu plus égoïste qu'avant parce que si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le ferai pas. Tu sais, je pense vraiment à moi maintenant. Donc oui, je suis peut-être un petit peu plus égoïste qu'avant.
Et au niveau du travail, donc vous êtes retourné au travail, est-ce que vous avez senti une différence? Est-ce que vous êtes, tu sais, les gens réagissent différemment vers vous ou non, pas du tout? Ça continuait comme avant?
Ben moi, ça a été un très long processus. Mon retour au travail, ça a pris un. À partir du moment où j'ai remis mon rapport médical, ça a pris un an avant que je puisse rentrer parce que mon employeur m'a envoyé deux fois en expertise. Donc, j'ai dû me battre pour revenir dans mon poste. Mais quand je suis revenue, vraiment, les gens avaient une belle ouverture, puis ça s'est très, très bien passé. Ben, d'ailleurs, ils ont tous lu mon livre. Mes employés ont tous acheté un livre pour la plupart. Donc, non, ça se passe très bien avec au retour au travail. Sauf que moi, personnellement, j'ai un peu moins d'énergie que j'en avais et un peu de désintérêt aussi. Parce que maintenant, c'est plus ça qui est ma priorité. Tu sais, avant, j'étais très carriériste. Moi, je suis directrice. J'étais très carriériste et c'était important pour moi de continuer à gravir les échelons. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Tu sais, ce qui est important, c'est justement voyager, profiter de la vie, profiter de ma famille, mes enfants, mes amis. Donc, oui, mon regard sur le travail a changé, mon approche du travail a changé. Ce qui est important, c'est que mes employés soient bien au travail. Fait que je travaille plus dans ce sens-là, de rendre les gens heureux autour de moi que d'essayer d'être dans la performance.
On a parlé des gestes, des paroles que votre famille, votre entourage a pu faire. Est-ce qu'il y a de ces mêmes gestes-là que des professionnels de la santé, donc soit votre équipe d'hémato-onco ou d'autres professionnels qui ont gravi autour de vous, ont fait pour vous soutenir dans votre recherche de nouvelles normalités?
Non, pas vraiment au niveau professionnel. Le fait que je suivais des enseignements de méditation, tout ça depuis plusieurs années, fait que j'étais capable de me centrer moi-même puis de me regrounder, si on peut dire. C'est sûr que quand j'ai commencé à avoir le conflit avec mon employeur, j'ai vu une psychologue qui m'a aidé à démêler tout ça, tout ce qui s'était passé dans les dernières années. Oui, la psychologue a été un bon support.
Elle vous a soutenu, donné des outils, guidé, donc ça vous a aidé.
Oui.
Donc, on espère que ce balado-là va être écouté par plusieurs personnes de notre communauté, donc des patients qui sont actuellement en traitement, des gens qui commencent leur vie après le cancer, qui ont des questions. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là pour les aider à dans leur recherche de sens, de l'expérience qui est souvent traumatisante qu'ils ont vécue?
Bien, moi, je leur dirais de pas perdre l'espoir. Vous savez, on dirait que la vie, elle met des obstacles sur notre route à la hauteur de ce qu'on est capable de surmonter. Donc, s'ils ont cet obstacle-là, ils sont capables de surmonter. Il faut juste qu'ils restent confiants, puis qu'ils, tu sais, un jour, là, après la pluie vient toujours le beau temps. J'aime bien dire ça, c'est que c'est des passes, puis là, c'est une mauvaise passe, puis un jour, ça va revenir. Tu sais, ils vont voir la lumière au bout du tunnel un jour. C'est long, c'est long. Des fois, on voudrait que ça soit fini demain matin. Moi, je me souviens, j'étais tannée, j'avais hâte que ça finisse, ce traitement-là. Mais à un moment donné, ça finit, puis la vie reprend. La vie va reprendre. C'est ça qui est important de ne pas oublier.
Souvent, on oublie le rôle important des aidants, donc des gens qui soutiennent, qui entourent les gens en traitement ou les gens qui sont des survivants. Qu'est-ce que vous diriez aussi aux aidants, donc aux enfants, aux conjoints, aux parents qui doivent, qui sont là au quotidien pour soutenir les gens qui sont touchés?
Bien, je dirais de continuer. C'est quelque chose d'hyper important. C'est ce qui fait notre force. Tous nos aidants autour, c'est ce qui nous propulse, c'est ce qui nous empêche de baisser les bras. Donc, c'est sûr que c'est important qu'ils continuent, mais qu'ils se préservent aussi parce que c'est très difficile. Pour les aidants, c'est différent. Ils ne traversent pas la maladie de la même façon, mais je l'ai vu là avec mon conjoint, c'est une période difficile aussi pour eux et ben, qu'ils se protègent, qu'ils fassent attention à eux aussi dans tout ça.
Est-ce qu'il y a des ressources que vous recommanderiez aux gens pour de consulter, soit des livres, soit des ressources Internet, pour les soutenir dans la recherche de leur nouvelle normalité?
Moi, j'ai beaucoup aimé aller voir une psychologue, pas besoin de la voir 20 fois, là. Mais des fois, eux, ils nous démêlent tout ça un petit peu où est-ce qu'on en est rendu par rapport à ce qu'on vit. Ça peut être aidant. Puis c'est sûr que moi, j'ai beaucoup aimé les livres du docteur Murphy qui ont une approche très positive de la puissance du cerveau puis de la puissance de notre pensée. Fait que c'est un peu ça. Puis évidemment, ben moi, ça a été la méditation qui m'a beaucoup aidé avec tous les enseignements que j'ai eus de Paul Baudry depuis 10-12 années, là.
Et au début, à l'introduction, j'ai mentionné que vous avez, Véronique, vous avez écrit un livre, L'âme d'une guerrière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre et de la raison pour laquelle vous avez décidé de faire cette démarche-là?
Oui, ben en fait, j'ai fait cette démarche-là. C'était le but, c'était de donner un message d'espoir. On m'a diagnostiqué deux maladies neurologiques en l'espace de 5 mois, la sclérose en plaques et les lymphomes. Et ça a été tout un processus. J'ai reçu une trentaine de traitements de chimio, une greffe. Évidemment, j'explique tout ça dans mon livre, mais avec humour aussi, parce que quand on est détaché et qu'on n'est plus dans la maladie, on peut en rire parce que c'est pas toujours drôle, mais il y a des situations cocasses quand même. Donc, je raconte tout ça. Et pour moi, je pensais que quand je sortirais de l'hôpital, tout était fini, mais c'était pas ça du tout. Il y a une convalescence qui vient avec ça. J'avais comme skippé, moi, cette partie-là. Et dans mon livre, je raconte aussi la convalescence parce que pour moi, ça a été la période qui a été plus difficile parce que c'était long. C'était long avant de revenir, avant que tout soit correct, avant que le corps redevienne correct. Et on est impatient. On a hâte que ça se termine. On a hâte d'être comme avant. Fait que c'est un peu ça le livre. C'est vraiment ben, mon histoire, mais avec un message d'espoir puis un message positif aussi. Puis c'est fait quand même avec humour, là.
Quelqu'un là, qui s'apprête à passer par là ou qui vient juste de terminer ses traitements, par exemple, et qui lit votre livre, quels sont les bienfaits que vous pensez que ça va apporter?
Ben, les gens vont plus apprécier la vie, certainement. Il y a un message vraiment positif par rapport à ce que j'ai vécu parce que la maladie m'a apporté plus que ce qu'elle m'a enlevé. Donc, je raconte un peu pourquoi, moi, personnellement, je trouve que la maladie m'a apporté plus. Donc, oui, quelqu'un qui lit ça puis qui se demande pourquoi il y a eu ça ou pourquoi lui était malade, pas un autre, je pense qu'il va peut-être avoir des réponses.
Et vous avez décidé de verser une portion des fonds de votre livre à la Société de leucémie de lymphome du Canada. Pourquoi vous avez décidé de faire ce geste-là?
Ben pour la recherche, parce que moi, dans le taux de survie du cancer que j'avais, c'était 35% il y a quelques années, maintenant c'est 85%. Donc, s'il n'y avait pas eu de recherche, je serais probablement plus là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de verser une partie des profits pour la recherche.
Bien, c'est très généreux de votre part. Et où est-ce qu'on peut se procurer votre livre?
Mais le livre est seulement en ligne sur bouquinbec.ca. Vous allez dans la partie librairie et c'est là que vous pouvez trouver mon livre, L'âme d'une guerrière.
Sur ce, merci beaucoup, Véronique, d'avoir accepté de partager votre vécu avec nous.
Bien, merci beaucoup.
Si vous avez des questions sur la vie après le cancer, ou si vous avez besoin de soutien durant votre expérience avec le cancer, je vous encourage à contacter le spécialiste des ressources communautaires près de chez vous. Communiquez avec la SLLC au 1-833-222-4884. Vous pouvez également visiter notre site Internet à llscanada.org. Vous y trouverez des fiches de renseignements, des livrets et des webdiffusions pour en apprendre davantage sur votre type de cancer du sang. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien de CIBC.